Léon Cladel, Madame la Générale à la jambe de bois. On jouait les Huguenots à l'opéra. La toile venait de tomber sur l'acte magistral de la bénédiction des poignards, et dans l'opulente salle où Louis, partant pour la Syrie, n'a jamais eu le plaisir de montrer son triste museau, car si parfois les empereurs proposent, le peuple dispose, un flot de diamants rutilait sous les feux du lustre, aux doigts, aux oreilles, à la gorge des mondaines, sur qui les lorgnettes des vieux beaux et des jeunes coquenesses s'étaient braquées de toutes parts. « Savez-vous, par hasard, messieurs, quelle est cette très belle personne ?» demanda tout à coup au confrère de l'entourage, un journaliste intransigeant, que sa verve implacable et ses nombreux succès. Et moi, de prison à Sainte-Pélagie, ont singulièrement mis en relief. Il me semble que je l'ai déjà rencontré. En Amérique, alors, repartit solennellement ce malicieux pontife du reportage parisien qu'on nomme le père Écho. Mais c'est la femme de ce trapu gentleman assis à côté d'elle et qui porte un collier de barbe à l'instar de nos marins. Son Excellence, le général Abraham Falvey, du message Sussex. Arrivé, mes informations sont un peu plus précises, de Londres, ce matin même, par l'express du Havre. Oh, cependant, elle n'a pas l'air d'une Yankee, bourdonna le sympathique écrivain tout pensif, mais je crois que l'on chercherait en vain son extrait de naissance sur les bords du Connecticut de l'Ohio. Remarquez donc ces gestes si faciles et cette grâce toute française. Oh, je vous assure que je l'ai déjà vue, non point aux États-Unis, où je ne suis jamais allé, ni dans les plaines du Rhône que j'ai quittées encore au maillot. Voici quelque 30 ans, mais ici même, à Paris, ou je ne sais où. Seulement, elle avait dans ce temps-là les cheveux épars et ses yeux, dont aujourd'hui le si doux regard caresse comme la molle lumière d'une lampe, jetaient alors des flammes terribles. Hum, hum, en voilà du lyrisme, par exemple, ah ça, citoyen. Seriez-vous quelque démocrate, un peu poète, dites? Évidemment, oui, certes, c'est comme cela. Quoique, ou parce que, Monseigneur de la Sainte Ampoule, et les mules de Desmoulins et des Paul-Louis se laissa choir, toujours songeur, dans la salle d'orchestre, sur les trois coups réglementaires, frappés sur la scène, annonçait le dernier lever du rideau. La pièce se dénoua, Valentine, Raoul, Marcel, tous les parpaillots eurent beau rouler les plus dramatiquement du monde sous les arquebuses des papistes, ils n'y prirent garde, occupé qu'il était à contempler un autre champ de carnage. Aux abords d'un terrain ardu, boisé, que parsèment les villes la close de murailles, se groupe nombre de bataillons armés à la moderne. Et du haut d'un mont perdu dans les brumes hivernales, une citadelle vomit par les gueules de 100 canons de remparts, des paquets de mitrailles sur les bois ambiants, d'où l'ennemi, savamment embusqué, couvre de mousquetaires. Cretri. Non, 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 dans l'ennemi, savamment embusqué. D'où l'ennemi savamment embusqué couvre de mousqueterie nos fantassins échelonnés sur les pentes et prêts à monter à l'assaut. Et tout à coup, le tambour bat, le clairon sonne. En avant, fils de France, et vive Paris! On s'élance, on se rue, et on se heurte contre des échaliers derrière lesquels luisent les casques à pointe de l'assiégeant. Hurrah, hurrah! Les sujets du König font rage. Lorsque soudain ce cri retentit « À la baïonnette !» et l'on vit une fois de plus ce que peut, en dépit de chefs ineptes ou pusillanimes, qui ne savent ni vaincre ni mourir, la furia française. Pourtant la victoire hésite encore. Alors aux troupes régulières se joignent les milices de la ville investie, et ce qu'on en vain essayer de soldats de profession est accompli par les soldats de hasard. Dieu vivant, à la tête des phalanges urbaines s'avancent dans la poudre et dans la fumée deux conscrits, deux blancs becs. Un d'eux tombe au pertuis d'un fourré, l'autre s'agenouille, puis tout hérissé, se relève et de nouveau se précipite, avide de venger son coreligionnaire mourant. Il charge, il va. Son képi, frappé d'une balle, est emporté. Mais quel élan! Il bondit, il gronde, il se transfigure. Or, ce n'est plus seulement un volontaire de la mort, c'est la patrie elle-même. Et ce brave, ce héros, c'est une femme. On dirait, sous des habits masculins, la Vierge de 92. Oui, la déité de Rude, avec ses crins ondoyants et tumultueux, ses ailes palpitantes et le glaive qu'elle tend d'un bras irrésistible vers l'étranger. Hélas, on ne sait pourquoi, les trompettes ordonnent la retraite. Et voici que le citoyen vainqueur s'arrête, docile à l'ordre qu'elles proclament toutes ensemble, et se replie. Elle seule, la guerrière, refuse d'obéir, et bientôt, foudroyée, s'abat à la crête d'un mamelon. « Mais non, non, elle n'est pas morte, cette vaillante, cette fille sublime, auprès de qui j'ai en combattu. Je la reconnais, je la retrouve, c'est elle, c'est bien elle. » Et celui qui rêvait s'éveille, court, le spectacle étant fini, hors de la salle, et se plante au pied de l'escalier monumental où doit forcément passer l'héroïne. « Appuyez-vous sur moi, » murmure son cavalier, tandis qu'élégante, rayonnante, prestigieuse, portant haut sa tête brune et droit son robuste torse, elle descendait dans son vaste burnous de satin blanc, les marches de marbre en entraînant un peu sa jambe gauche, affectée, eût-on dit, d'une certaine raideur. « Rochemont ! » s'exclama-t-elle à l'aspect du jeune pamphlétaire qui la contemplait, tout ému. « Vous ! Oh, que je suis heureuse de vous retrouver enfin, à peine si vous êtes changé. Mon mari, le général Falvi. » Puis, se tournant souriante et ravie vers son époux, « Un ami, mon compagnon d'armes à Buzenval. » Les deux gentilshommes, qui ne s'étaient encore jamais vus, se serrèrent la main avec effusion comme de vieilles connaissances. Après quoi, celui d'Espée dit à celui de Plume, avec la plus franche cordialité, « Vous ne pouvez, monsieur, nous laisser ainsi. Faites-nous le plaisir et l'honneur de nous accompagner de l'autre côté du boulevard, où nous causerons un instant de vos batailles d'hier et de celles d'aujourd'hui. » « Très volontiers !» Une calèche découverte et cuissonnée aux âmes de l'Union stationnait sous le péristyle de l'Opéra. Tous les trois y montèrent, et quelques minutes après, assis autour d'une table à thé et devant un feu pétillant, ils conversaient ensemble dans un riche salon de l'hôtel de Bristol. Le publiciste, interrogé, parla de procès intentés à ses confrères, et surtout à lui, par un gouvernement liberticide. Et quand il eut terminé le récit de ses luttes politiques, à son tour, il questionna Madame le Général, qui s'exécuta de très bonne grâce. En vérité, mon cher camarade de bivac, c'est une aventure assez étrange que la mienne, telle qu'elle la voici. Frappé sur ce plateau, témoin de votre valeur, j'en appelle à tous ceux qui, comme moi, pénétrèrent sur vos pas dans la redoute triangulaire de la Croix au Corbeau. Ramassée toute sanglante au-delà du Parc Bleu, près duquel périrent tant de braves, entre autres mon frère, mon unique frère, dont je partageais l'ardeur patriotisme, et qu'en dépit de tout, j'aurais voulu survivre au suprême combat, où vous ne l'ignorez point, n'eût été ce pauvre trochu, la victoire enfin fidèle au vautour teutonique, qui couronnait l'effort de Paris assiégé. Et je fus transporté, évanoui, intramuros, en la maison où venaient de s'éteindre, après une longue vie de labeur, mes pères et mères, ces honnêtes artistes, si dévots au peuple dont ils étaient sortis. Une vieille parente, la seule qui me resta, veilla pendant 2 mois à mon chevet, et grâce aux soins assidus qu'elle eut pour moi, j'étais sur pied et rétabli, lorsque sonna le tocsin de la guerre intestine. Avec qui lutter et contre qui? Républicaine, je n'écoutais que ma conscience. Et le cœur déchiré, je pris parti pour ces prolétaires à qui, j'y compte bien, rendra justice un jour l'impartiale postérité. Comme eux vaincus, avec eux, je tombais sur le dernier tas de pavés où flottait leur drapeau. Des mains pieuses me relevèrent dans la rue au moment où des soldats impitoyables achevaient le massacre de nos bataillons. Si blessé cruellement, je ne fus point passé par les armes, je le dois à la généreuse étrangère qui me recueillit sous son toit, où bientôt on pratiqua sur moi la mort m'eût été plus douce, une de ces mutilations dont l'homme qui les subit se trouve comme ennobli, mais qui ravale à jamais la femme astreinte à souffrir un tel dommage, en faisant d'elle un objet de douloureuse pitié. « Marianne, l'interrompit Abraham Falvey, que dites-vous? Oh, cela n'est ni ne fut, ni ne sera jamais, et je proteste. » Elle remercia d'un ineffable coup d'œil l'amant délicat qu'il avait choisi et poursuivit sans amertume. On avait obtenu de moi ce sacrifice, et celle pour l'amour de qui je m'y étais résigné en réclama bientôt un autre plus pénible encore. « Et quoi ? » m'écriai-je avec colère. « Vous m'avez contrainte à vivre, maintenant vous exigez que je m'expatrie ?»« Il le faut, mon enfant. Un conseil de guerre vous a condamné à mort, et nulle part en France vous ne seriez désormais à l'abri. » Et de nouveau, je cédai. Muni d'un passeport qu'on m'avait procuré, je gagnai le Havre, et 10 jours après mon embarquement, j'étais à New York, chez une germaine de ma bienfaitrice, où je rencontrai le bonheur. Un fils de Camisard, dont la famille, après la révocation de l'édit de Nantes, s'était réfugiée en Angleterre, et de l'Angleterre à la Nouvelle-Orléans, me vit et, malgré mon infirmité, m'aima. Et c'est avec lui, ce chevalier, que depuis hier seulement, j'ai retrouvé ma terre natale, Paris, mon grand Paris. « Oh, j'ai rien à craindre ici. L'étendard étoilé de la libre Amérique nous couvre. Et si nos tyrannos s'ingéraient de me molester tant soit peu, moi qu'ils ont proscrite, je sais fort bien qui protégerait contre eux celle que là-bas, au loin de l'autre côté de l'Atlantique, on appelle Madame la Générale à la jambe de bois. » Un silence attendri caractérisa cette curieuse confidence. Et comme le polémiste français se levait encore tout remué pour prendre congé des époux, le grave citoyen de l'Union dit avec un accent pénétré « Jadis, sous l'ancienne monarchie des Bourbons, mes ancêtres, honnêtes Cévenols, les captals de Flavy, portaient sur leur écu cette galante devise « Avant bon roi, madame !» Elle a du bon, et je la maintiendrai. 20 novembre 1871.